Direction la présidence pour faire le bilan du voyage à métropole d'Eliane Tevaïtoua. Direction le CESEC aussi avec des discussions mélangeant de la femme et nucléaire, mais aussi on fera également un point sur l'emploi. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On le disait, Eliane Tevaïtoua est revenue de métropole.
Oui, et comme Minari Galnon et Taïvini Théa, hier, la vice-présidente a tiré ce matin un bilan de sa dizaine de jours de visite. De Paris à Londres, la membre du gouvernement a parlé de coopération et de restitution d'archives, de prêt de nouveaux objets au musée de Tahiti, notamment des taux, de la collection Pomare et de précieux tirs ramenés par les navigateurs européens. Elle a aussi évoqué la restitution de restes humains, on aura l'occasion d'en reparler, ou encore de résidences d'artistes polynésiens à Paris. Mais le but essentiel de ce voyage, c'était bien de faire avancer le dossier du Hori Tahiti vers une inscription au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. La première tentative, rappelez-vous, entre 2017 et 2018, s'était soldée par un échec. Eliane Tevaïtoua a voulu relancer le dossier et après le passage devant le Comité français du patrimoine, qui doit remettre fin avril un rapport au ministère de la Culture puis au président Emmanuel Macron, eh bien la vice-présidente en est persuadée, cette fois c'est la bonne pour le Hori.
Pour moi, c'est la bonne, et ainsi que pour toute la délégation qui m'accompagnait, forcément c'est la bonne. Maintenant, la décision, on revient au président de la République.
Le président de la République qui avait préféré la yole martiniquaise au Hori Tahiti voilà 6 ans. Le dossier polynésien n'est encore une fois pas le seul en course. L'État doit faire un choix avec la ganterie de Millau, le carnaval guyanais ou encore le cognac, un adversaire de poids. Mais Fabrice Dinard, qui accompagnait Eliane Tevaïtoua dans ce déplacement, veut lui aussi se montrer confiant. Le dossier du Hori a été révisé, renforcé, mis au goût du jour avec des références au développement durable. Le directeur du conservatoire, qui serait la plus grande école d'art traditionnel de la République, a aussi rappelé que le Hori était intrinsèquement lié à la danse et à l'artisanat pour les costumes, à la musique et au chant traditionnel bien sûr. Il s'agit donc d'honorer toute cette culture qui est bien vivante comme cela a été souligné auprès du comité.
On voit l'engouement que notre jeunesse a pour le Hori et pour la culture traditionnelle parce que voilà, ils sont en train de s'approprier, de se réapproprier leur identité culturelle et c'est très important parce que dans la discussion qu'on a eue avec eux, ils nous disaient qu'en France ça ne marche pas, le parcours culturel à l'école. Mais nous, ça fonctionne parce que là, les parents reviennent aussi à l'école, pour partager leur savoir et savoir-faire. Et ça leur parle, tu vois, parce qu'à cause de tous les interdits qu'il y a eu, le bouleversement dans l'histoire que les Polynésiens ont connu, et puis là, on est en plein réappropriation culturelle.
Voilà Fabrice Dinard qui, comme Eliane Tevaïtoua, espère que le classement à l'UNESCO permettra de créer un label international autour du Hori. Aujourd'hui, il y a plus de pratiquants à l'extérieur du pays que d'habitants dans toute la Polynésie, c'est ce que rappelle le directeur du conservatoire. Il faut, dit-il, que tous ces gens sachent que s'ils veulent trouver le vrai Hori, il faut venir ici et pas à Los Angeles, Tokyo ou Paris. Fin de citation.
Et à propos de voyage officiel, Muay Thai Brotherson en a confirmé.
Oui, mais pas pour la métropole et pas pour parler de danse. Direction Singapour pour une visite de 2 semaines, pas moins. Il faut dire que la cité état asiatique a de quoi intriguer. Ses frontières ne couvrent pas plus des 2/3 de Tahiti, mais compte plus de 5 millions d'habitants et un PIB 65 fois supérieur à celui de la Polynésie. Et le président du pays a plusieurs fois évoqué cette prospérité ces derniers mois, Charlie René.
Oui, ça avait commencé au Forum des îles du Pacifique de novembre dernier. Muay Thai Brotherson s'était alors longuement avec le premier ministre singapourien Vivian Balakrishnan. Sa question, comment un état insulaire sans ressources naturelles, sans foncier, avec très peu d'eau douce et une population très diverse, a pu devenir une telle puissance commerciale et financière? Le président du pays avait plus tard cité Singapour comme un possible point d'entrée de la Polynésie en Asie, pourquoi pas via Athènes, puis demandé directement à l'Elysée de le laisser accentuer la relation du Fénois avec cette cité-état. On parle d'agro-transformation, d'éducation et de numérique, mais la vraie ligne de mire, Valdemar, ce sont les grands fonds d'investissement souverains singapouriens.
Et Singapour en a 2 de ces fonds souverains. GIC, qui gère plus de 80 000 milliards de francs d'actifs et les réserves de change du pays, et Temasek Holding, qui ne pèse que 30 000 milliards, certes, c'est tout de même très bien, mais qui est beaucoup plus concentré sur l'investissement extérieur. Mais la question, c'est est-ce que Muay Thai Brotherson peut revenir avec des contrats signés avec ces géants de la finance, Charlie ?
Difficile à dire, le programme de la visite de 15 jours est pour l'instant plutôt vaporeux. Une série de réunions avec des groupes d'investisseurs est bien évoquée, mais ils ne sont pas nommément cités. Le président doit aussi rencontrer des ministres singapouriens, des chefs d'administration, il doit visiter le port, l'aéroport, parler de numérique chez Google et de data center chez un constructeur spécialisé. Mais c'est bien l'investissement hôtelier qui va tenir l'essentiel de l'agenda. Muay Thai Brotherson a déjà assuré par le passé pouvoir trouver des partenaires qui n'ont pas besoin de défiscalisation. Reste à connaître leur cible. La rumeur évoque les friches hôtelières de Tahiti, Moorea ou de Raromatei, mais aussi le site du village tahitien, projet à l'arrêt depuis la nouvelle mandature, Valdemar.
Voilà, Singapour, investisseur providentiel et modèle de développement, c'est en tout cas ce que semble croire le gouvernement. On rappelle tout de même que le petit pays, bien que très riche, est aussi très inégalitaire et que son régime est considéré comme une démocratie autoritaire.
L'Observatoire de l'emploi révèle ses premiers travaux.
Oui, des travaux et surtout des données chiffrées qui sont désormais disponibles et accessibles à tous en ligne. Ce matin, Vanina Krolas, la ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail, a présenté ce puits d'informations qui dresse l'état des lieux global, mais qui détaille aussi l'emploi au Fénois. Le fruit d'un travail commun entre différents services tels que la Direction du Travail, l'ISPF, la SCPS, la CCISM ou encore le CESEC. Des chiffres qui évoluent dans l'ensemble plutôt favorablement, selon Vanina Krolas, mais qui restent fragiles car toujours porté par les mêmes secteurs d'activité.
On a toujours le commerce, le BTP, le tourisme qui sont les secteurs porteurs et il faut justement diversifier au maximum pour renforcer la résilience de notre économie. Et donc c'est en tout cas la première information qu'on peut tirer de ces données qui nous conforte en fait dans notre politique de développement des secteurs prioritaires et qui va nous permettre petit à petit d'identifier les perspectives d'offres d'emploi dans ces secteurs et donc la formation qu'on doit adapter à ces perspectives d'évolution.
Et cette base de données qui sera mise à jour tous les 3 mois permettra aux décideurs d'appréhender l'évolution du marché de l'emploi et d'adapter leurs décisions en conséquence. C'est d'ailleurs le cas pour la réglementation sur la protection de l'emploi local qui, d'après les chiffres, révèle quelques carences.
Il va certainement falloir qu'on retravaille ce texte, qu'on revoie les critères, parce qu'on protège là où il y a une carence de main-d'œuvre. Au contraire, on devrait ouvrir là où il y a une carence de main-d'œuvre. Donc il faut vraiment qu'on retravaille ce texte. En tout cas, nous, on veut également ouvrir cette protection à l'emploi public, c'est prévu par le statut de 2004 et également aux professions libérales. Ça aussi, c'est prévu. Mais ça se fera dans le cadre d'une concertation avec les organisations patronales et salariales.
Voilà, vous avez entendu Vanina Krolas au micro de Vaïtia Péraire. À noter enfin que ces statistiques sont disponibles dans la rubrique statistiques emploi du site actuemploi.org.
Et puis aujourd'hui, c'est le 8 mars.
Et comme tous les 8 mars, le monde célèbre les droits des femmes, la Polynésie aussi d'ailleurs. On vous en parlait hier et ce matin, des différents événements sont organisés dans le cadre de ces célébrations au Fénois. Il y a eu la cérémonie des Poerava et ces femmes qui font avancer le pays, une conférence à l'université avec de hautes responsables d'administration, un vernissage d'exposition au Osaria, une grande photo et une réunion du personnel féminin de la présidence. Il y aura aussi, comme tous les ans, la course tahitienne, ce sera demain à la mairie d'Aroué. Mais avant, c'est aussi le CESEC qui s'est mobilisé pour cette journée. L'Assemblée consultative avait invité plusieurs élus indépendantistes pour la plupart et des représentants de l'association 193 pour une matinée de débats sur les femmes dans le processus d'indemnisation des essais nucléaires. Des débats qui s'adressaient à la fois aux Polynésiennes et aux autorités de l'État.
Les femmes de cette association voulaient transmettre aux femmes de la Polynésie, derrière les femmes, aux hommes, donc à toute la population de la Polynésie, tous les problèmes qu'ils rencontrent pour aller défendre les droits, on va dire, de la santé. Les lois, c'est l'autorité française qui l'a créée et les responsables pour qui les femmes sont un peu contre et physiquement, parce qu'on subit tellement de maux. C'est incompréhensible, donc c'est l'État qui crée les lois, donc c'est contre l'État.
Voilà, Voltina Rohomataroa Dauphin, la présidente du CESEC, où on a appris ce matin que la première maladie à faire l'objet d'indemnisation par le CIVEN, c'était bien le cancer du sein, et que les femmes étaient largement majoritaires dans les dossiers civils défendus par 193. Les prises de parole sont toujours en cours au Conseil économique et social, avec notamment un point par le président de la CPS, Patrick Galnon, sur le dossier de l'indemnisation de la caisse par l'État pour le coût des maladies radio-induites.
Deux rendez-vous culturels ce soir.
Le festival TVVO qui se poursuit avec une nouvelle représentation de la pièce La dernière nuit du monde qui est jouée jusqu'à dimanche au Petit Théâtre. C'est donc ce soir à 19h30 avec une question centrale dans cette œuvre. Et si l'homme n'avait plus besoin de dormir? Réponse dans des représentations que vous pouvez retrouver aussi ce week-end. Et puis le Heiva Taorea qui a débuté hier. Ce soir, le rendez-vous est donné à 18h30 à Toata avec les collégiens de Pomare 4, Tevaiuta, Arueta et du collège Henri Hiro de Faa. Dernière soirée demain soir avec notamment la remise des prix.
Et pour terminer, on vous parle de ces récompenses dans le monde sportif.
Oui, les Aito Tuaro organisés par le COPF, le Comité Olympique, c'est jeudi prochain, le 14 mars à la présidence et c'est la deuxième édition. 15 catégories ont été retenues, c'est une de moins que l'an passé. Alors on ne connaît pas encore tous les nommés, ils seront tous dévoilés dans les prochains jours, mais on sait déjà qu'ils ont été proposés par les fédérations affiliées au COPF. Et c'est ce modèle de sélection bien spécifique, avec proposition des fédérations, puis réunion d'un jury qui rend les Aito Tuaro si particulier en opposition à l'autre cérémonie de récompense sportive, les trophées du sport, qui sélectionne plutôt ses nommés avec des journalistes ou des sponsors. Autre point sur lequel les Aito Tuaru veulent se démarquer, c'est la mise en valeur de l'ensemble du mouvement sportif. Les athlètes, bien sûr, mais aussi les bénévoles ou les entraîneurs. Alors les deux entités, le CEOPF d'un côté et l'organisateur des trophées du sport, Simone d'Avanzati de l'autre, ont bien essayé de discuter par le passé, mais sans jamais se mettre d'accord, comme nous le raconte le directeur technique du CEOPF, Eric Zorniotti.
Simone était venu nous voir en 2020, on avait voulu travailler ensemble, sauf qu'on avait mis notre demande et on voulait que ça soit les fédérations qui désignent leurs athlètes. Et à partir de là, si lui n'est pas d'accord, on ne peut pas se mettre d'accord sur le concept. Au départ, le trophée des sports, c'était de mettre en avant nos meilleurs athlètes de la Polynésie, ce que j'entends très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que le concept du mouvement sportif, c'est de mettre aussi en avant tous les bénévoles qui sont derrière les entraîneurs. Je serais d'avis qu'on puisse trouver une fusion parce que c'est un peu ridicule, on est dans un petit pays.
Voilà, un petit pays qui compte donc deux cérémonies de récompenses sportives. Les trophées du sport ont déjà eu lieu. Les Aito Tuaro, c'est donc le 14 mars, 19h20. La présidence, entre 200 et 300 personnes sont attendues. A noter que le COPF est décidément dans une période bien chargée, puisque c'est demain qu'ont lieu les élections à la présidence. Le sortant Louis Provost est à nouveau candidat. Il fera face à Fahana Taputu, le président de la Fédération Tahitienne de Basketball. Des élections particulièrement importantes, puisque c'est sous cette future mandature que seront organisés les Jeux du Pacifique de 2027, qui, vous le savez, auront lieu à Tahiti. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. Prochain rendez-vous avec l'actualité locale, le flash de la rédaction, et c'est à 16h.